Vous écoutez On lit pour vous.
Une nouvelle étude décrit comment les milieux de travail peuvent devenir plus accessibles aux personnes handicapées. Un texte paru le 29 octobre 2025 dans The Conference Board of Canada. Pour les membres du personnel en situation de handicap, la divulgation est complexe et la nécessité de divulguer peut constituer un obstacle à l'inclusion en milieu de travail, selon une nouvelle étude du Conference Board du Canada et de Mentor Habileté Canada, une initiative de l'Association canadienne de soutien à l'emploi. Le Canada a besoin de milieux de travail plus accessibles, mais trop souvent, les personnes en situation de handicap se heurtent à des obstacles systémiques qui les empêchent de participer pleinement au marché du travail, a déclaré Lindsay Coffin, associée de recherche principale, capital humain, au Conference Board du Canada. En éliminant ces obstacles et en adoptant des pratiques inclusives, les organisations peuvent mieux soutenir les membres du personnel, tout en renforçant l'acquisition, l'innovation et la rétention des talents. Cette série de recherches met en lumière des pistes de réflexion concrètes pour les employeurs afin de rendre leur milieu de travail plus inclusif. De nombreuses organisations adoptent encore une approche réactive en matière d'accessibilité, s'appuyant souvent principalement sur des mesures d'adaptation individuelles pour les membres du personnel. Ce modèle impose aux membres du personnel la responsabilité de divulguer et de demander du soutien, ce qui représente une décision difficile pour la plupart. La crainte de répercussions négatives, comme la discrimination ou la perte d'opportunités, ainsi que les expériences négatives antérieures en matière de divulgation, sont des facteurs qui influencent fortement le choix de membres du personnel. Par conséquent, la divulgation n'a souvent lieu que lorsque cela est absolument nécessaire pour expliquer ou répondre à des préoccupations liées au rendement. Pour de nombreux employeurs, l'inclusion en milieu de travail repose sur la divulgation individuelle, a déclaré Joanna Good, directrice générale de l'Association canadienne de soutien à l'emploi. Une véritable inclusion signifie que les employeurs sont allés au-delà des mesures d'adaptation réactives axées sur la divulgation. Ils ont plutôt adopté des pratiques proactives qui ont intégré l'accessibilité à tous les aspects du milieu de travail, lorsque c'était possible. Bien qu'il soit important de favoriser des environnements où les membres du personnel se sentent en sécurité pour divulguer leur situation, la recherche souligne l'impact plus important de la réduction du besoin de divulgation. L'intégration de l'inclusion dans les politiques, les espaces physiques, les technologies et la culture organisationnelle crée des conditions où tous les membres du personnel peuvent s'épanouir sans être obligés de divulguer leur situation pour obtenir du soutien. Cette série de recherches a été commandée par Mentor Habileté Canada, qui est financée par le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées du gouvernement du Canada. Les résultats démontrent également que le mentorat est un outil essentiel pour favoriser l'inclusion en milieu de travail. Les mentors peuvent accompagner les membres du personnel en situation de handicap dans leur intégration au marché du travail, leur transition de carrière et leur avancement. De plus, la recherche a révélé que le mentorat avait des effets positifs, qu'il s'agisse d'une relation formelle ou informelle. À propos du Conference Board du Canada, le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant au pays. Depuis 1954, le Conference Board du Canada mène des recherches qui soutiennent la prise de décisions fondées sur des données probantes pour résoudre les problèmes les plus complexes du Canada. C'était une nouvelle étude décrit comment les milieux de travail peuvent devenir plus accessibles aux personnes handicapées. Un texte paru le 29 octobre 2025 dans The Conference Board of Canada.
Michelle Stilwell, au-delà du podium. Un texte paru le 29 octobre 2025 sur le site du Comité paralympique canadien. Ottawa. La sextuple championne paralympique Michelle Stilwell a été intronisée mercredi au Panthéon des sports canadiens en hommage à une carrière exceptionnelle dans deux sports qui a redéfini ce que permettent d'accomplir le leadership et le talent. Pour Stilwell, la cérémonie de mercredi n'était pas seulement une célébration de médailles et de records du monde. Il s'agissait avant tout de faire avancer le sport paralympique, de changer les perceptions sur le handicap et de mettre en lumière les réalisations des personnes ayant un handicap. Ses performances dans le sport et plus tard sa carrière politique ont eu un impact sur tout cela. Citation « Mon histoire sportive est imbriquée dans l'histoire du sport paralympique », fin de citation, a déclaré Stilwell, qui est devenue la 18e athlète paralympique à faire son entrée au Panthéon des sports canadiens. Citation « C'est assez incroyable quand j'y pense. Le sport a toujours fait partie de ma vie. » Fin de citation. Il a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. En 1991, à 17 ans, Stilwell est devenu quadriplégique à la suite d'une terrible chute survenue alors qu'un ami la portait sur son dos. Les trois années qui ont suivi ont été marquées de complications et d'interventions chirurgicales, ainsi que d'une longue réadaptation. Elle a alors découvert le basketball en fauteuil roulant et a rapidement été invitée à s'entraîner avec une équipe. Citation « Je portais encore mon orthèse à l'eau », se souvient-elle. « Je n'avais jamais vu de basketball en fauteuil roulant auparavant, mais j'ai tout de suite été accro. Dès que j'ai vu ces athlètes évoluer sur le terrain, j'y étais déjà à fond. » Fin de citation. C'était le début d'une magnifique carrière sportive. Aux Jeux paralympiques de Sydney 2000, elle était membre de l'équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant qui a remporté la médaille d'or du tournoi. Toutefois, des complications liées à sa lésion médulaire l'ont forcée à changer de sport et, avant les Jeux de Beijing 2008, elle s'était réinventée pour devenir une coureuse en fauteuil roulant de calibre mondial dans les épreuves de sprint dans la catégorie T52. Il y a quand même eu quelques grains de sable dans l'engrenage. Citation « À ma première course internationale, j'ai terminé à la dernière place. Je n'ai pas aimé ça. » Fin de citation, raconte-t-elle. Cependant, elle s'est rapidement taillée une place parmi les athlètes qui ont dominé son sport. À Beijing, elle a balayé les épreuves de 100 et de 200 mètres et 4 ans plus tard, à Londres, elle a récolté l'or aux 200 mètres et l'argent aux 100 mètres. Elle a également été double médaillée d'or à Rio. De plus, elle a gagné 9 médailles aux championnats du monde, dont 7 d'or, a inscrit 20 records du monde et a remporté plusieurs courses de 10 km ainsi que des semi-marathons et des marathons au Canada et à l'étranger. Aux Jeux de Rio, elle avait déjà commencé le 2e chapitre de sa vie en tant que députée de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Élue en 2013 en tant que représentante de Paxville-Calicum, elle a probablement été la première personne à occuper une fonction élective à concourir à des Jeux olympiques ou paralympiques. Stilwell a été réélue en 2017 et a fait partie du cabinet en qualité de ministre du Développement social et de l'Innovation sociale. Stilwell admet que sa nature compétitive l'a aidée à faire sa place dans la jungle impitoyable qu'est la politique. Du podium à la politique, de la médaille d'or au gouvernement, Stilwell est demeuré inébranlable. Citation « Les Jeux paralympiques se déroulent tous les 4 ans, de même que les élections », établit-elle comme comparaison. « Il s'agit avant tout de la préparation et du plan qui vous permettra d'y arriver ». Fin de citation. Elle aborde les campagnes électorales de la même manière que les compétitions. Citation « Aucun paralympien ne peut arriver au sommet sans une équipe qui l'appuie », dit-elle. C'est la même chose en politique. On se repose sur son caucus, sur son personnel, et tout le monde travaille vers le même but. Fin de citation. Aujourd'hui, Stilwell est en train de planifier la prochaine étape de sa carrière. À seulement 51 ans, il lui reste un long chapitre à écrire. Entre-temps, elle continue à servir le public. Par ailleurs, Stilwell est vice-présidente du Comité paralympique canadien et siège au conseil d'administration de la Fondation Bon Départ de Canadian Tire, qui œuvre en vue de rendre le sport plus accessible pour les enfants d'un bout à l'autre du pays. Citation : Si nous pouvons donner à tous les jeunes la possibilité de faire du sport, nous créerons de futurs leaders, affirme-t-elle. Nous façonnerons des personnes qui sont en mesure d'accomplir des choses extraordinaires grâce à leur confiance en elles et à leur résilience. Fin de citation. D'après Michelle Stilwell, tout le monde doit avoir la possibilité de découvrir ce dont il ou elle est capable. Ce credo, plus que les médailles et les titres, pourrait être son legs le plus précieux. C'était Michelle Stilwell au-delà du podium, un texte paru le 29 octobre 2025 sur le site du Comité paralympique canadien.
Un renouvellement de permis de conduire compliqué pour une patiente orpheline. Un texte de Béatrice Rooney paru le 26 octobre 2025 dans Radio-Canada Info. Une bérivraine se sent coincée dans les dédales administratifs du système de santé. Elle craint de perdre son permis de conduire puisqu'elle n'arrive pas à obtenir la signature d'un médecin pour le renouveler. Claire Véraud, qui est atteinte de la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, n'a pas accès à un omnipraticien pour remplir un formulaire de renouvellement demandé par la Société de l'assurance automobile du Québec. SAAQ. Elle se retrouve dans cette situation après avoir entamé des démarches pour obtenir une vignette de stationnement pour personnes handicapées il y a quelques mois. « C'est plus facile comme ça parce que j'ai de la difficulté avec la distance à cause de mon état », explique-t-elle. Le formulaire doit être signé par un médecin ou une infirmière clinicienne d'ici le 29 décembre, selon la SAAQ. Le guichet d'accès à la première ligne inefficace. Pour pouvoir consulter un médecin rapidement, Claire Véraud a tenté d'obtenir un rendez-vous par le guichet d'accès à la première ligne, GAP, mais sans succès. Le GAP n'est pas apte à me trouver un médecin. Il faut que je me rende à l'urgence au bout de la ligne, mentionne la dame. Toutes les démarches me ramènent vers l'urgence, mais c'est un papier. On va me revirer de bord, c'est évident. Elle soutient que sa condition médicale ne lui permet pas de passer de longues heures dans une salle d'attente. L'idée de perdre son permis lui cause beaucoup d'inquiétude. « Ça m'apporte du stress, c'est de la colère », lance Mme Véraud. « Ça fait dégrader mon état de santé, finalement. C'est tout ce qu'il me reste comme liberté. » C'est mon seul moyen de me déplacer parce que je ne peux pas prendre de grandes marches ou des choses comme ça. Des délais plus élevés. Par courriel, le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean indique que les demandes sont actuellement en hausse pour la clientèle orpheline du réseau local de services de la baie, comparativement aux plages horaires disponibles au GAP. Advenant le cas qu'il soit urgent de faire remplir le formulaire de la SAAQ, si le GAP n'est pas en mesure d'octroyer un rendez-vous rapidement, l'usager sera redirigé vers l'urgence, est-il possible de lire. Après avoir consulté le CLSC de son secteur, Claire Véraud a obtenu un rendez-vous avec une travailleuse sociale pour essayer d'avoir un rendez-vous en santé mentale et consulter une infirmière clinicienne. La SAAQ se veut rassurante. Le porte-parole de la SAAQ, Simon-Pierre Poulain, assure que les conducteurs peuvent bénéficier de mesures d'accommodement. « Il y a beaucoup de cas par cas », affirme le porte-parole. « Peu importe la raison, appelez-nous. » Puis, il y a des procédures pour avoir des délais supplémentaires. Ça peut aller jusqu'à 90 jours selon les conditions de santé. Chaque mois, 40 000 conducteurs québécois doivent remplir un formulaire médical pour renouveler leur permis de conduire. C'était un renouvellement de permis de conduire compliqué pour une patiente orpheline. Un texte de Béatrice Rooney paru le 26 octobre 2025 dans Radio-Canada Info.
environ 700 personnes tuées lors de manifestations anti-régime en Tanzanie, un texte de l'Agence France-Presse paru le 31 octobre 2025 dans Le Devoir. Environ 700 personnes ont été tuées lors de violences électorales en Tanzanie, a affirmé vendredi le principal parti d'opposition de ce pays d'Afrique de l'Est, un bilan rejeté par le gouvernement qui récuse tout, citation, « usage excessif de la force ». Fin de citation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la retenue et réclamé une enquête indépendante sur les accusations de répression excessive formulées alors que le pays sombrait dans la violence à la suite des élections présidentielles et législatives de mercredi. Ces scrutins se sont déroulés sans opposition, les deux principaux adversaires de la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, ayant été soit emprisonnés, soit disqualifiés. Un journaliste de l'AFP a entendu mercredi des tirs nourris dans la capitale économique et plus grosse ville du pays, Dar es Salaam, alors que des centaines de personnes protestaient, incendiant notamment un commissariat. La contestation s'est ensuite étendue dans le pays. Citation : Au moment où nous parlons, le nombre de morts à Dar es Salaam est d'environ 350 et il y en a plus de 200 à Mwanza, nord. Si l'on ajoute les chiffres des autres endroits dans le pays, on arrive à un total d'environ 700 morts. Fin de citation, a déclaré à l'AFP John Kitoka, porte-parole du parti d'opposition Chadema, qui avait été exclu des élections. Citation, il n'y a eu aucun usage excessif de la force. Fin de citation, a répondu le ministre tanzanien des Affaires étrangères, Mahmoud Thabit Kombo, sur la chaîne Al Jazeera, faisant état de poche de violence dans le pays de 68 millions d'habitants. Citation, je n'ai pas vu ces 700 morts, a-t-il poursuivi. Nous n'avons encore aucun chiffre pour aucune victime dans le pays. Fin de citation, a affirmé le chef de la diplomatie tanzanienne. Internet coupé. Le bilan de l'opposition a été qualifié de plutôt crédible par une source diplomatique qui a fait état de centaines de morts. Une source sécuritaire interrogée par l'AFP a reçu des informations similaires. Citation, les forces de sécurité sont dans les hôpitaux. Elles essaient de contrôler le narratif, fin de citation, sur le nombre de victimes pour ne pas mettre en difficulté le gouvernement, a indiqué un chercheur d'Amnesty International interrogé par l'AFP. Plusieurs hôpitaux et centres de santé ont refusé de s'exprimer auprès de l'AFP. Internet reste largement bloqué, ce qui complique le travail de récolte des données. Citation, quand la situation s'apaisera, l'Internet reviendra. Fin de citation, a assuré Amisi Mbeto, un porte-parole du parti au pouvoir à Zanzibar, lors d'une conférence de presse. Citation, si vous laissez l'accès à Internet, les gens diffusent des rumeurs et le chaos. Fin de citation. Malgré un confinement décrété à Dar es Salaam, des centaines de personnes ont marché vendredi dans les rues de la ville, ont indiqué à l'AFP John Kitoka et la source sécuritaire. La cible de leur courroux est la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, promue à la tête de la Tanzanie à la mort de son prédécesseur John Magufuli en 2021, qui aspire cette fois à être élu. Jamais d'élection crédible. Saluée dans un premier temps pour avoir assoupli les restrictions instaurées par son prédécesseur, elle a été accusée ensuite de mener une répression sévère contre ses critiques, notamment en amont du scrutin. Les sites d'information locaux n'ont pas été mis à jour depuis mercredi et Mme Hassan n'a fait aucun commentaire sur les troubles. Les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à reconsidérer leur projet de voyage dans le pays. Le décompte des votes est toujours en cours, avec des mises à jour régulièrement annoncées sur la télévision nationale qui ne mentionnent pas les troubles, mais montrent sans surprise un raz-de-marée du parti au pouvoir CCM. Citation, il n'y a jamais eu d'élection crédible depuis 1995. Fin de citation, a regretté, en référence aux premières élections multipartites en Tanzanie, un homme de 70 ans à un rassemblement de l'opposition à Zanzibar, île touristique où le CCM a été déclaré vainqueur des élections locales jeudi soir. Aucune des personnes interrogées n'a osé donner son nom. C'était environ 700 personnes tuées lors de manifestations anti-régime en Tanzanie, selon l'opposition. Un texte de l'agence France-Presse, paru le 31 octobre 2025 dans Le Devoir.
Et si votre téléphone rendait les intersections plus sûres pour les personnes handicapées? Un texte de Pierre-Olivier Nadeau, paru le 20 octobre 2025 sur le site de Radio-Canada. La ville de Regina lance une nouvelle application pour sécuriser la traversée de 9 intersections dans son centre-ville pour les piétons en situation de handicap. Le projet devrait s'étendre à toutes les intersections du secteur d'ici la fin de l'année et ailleurs dans les villes dans les prochaines années. PEDAP offre à ses utilisateurs des instructions verbales, que ce soit pour annoncer aux piétons qu'ils s'approchent de l'une des intersections compatibles ou pour annoncer combien de temps il lui reste pour traverser. Le téléphone peut également offrir ces informations en vibrant pour les personnes malentendantes ou sourdes. L'application mobile permet également d'activer le bouton d'appel de feu pour piétons directement sur le téléphone. Toutes ces fonctions doivent marcher même si la température atteint moins 35 degrés Celsius, d'après un responsable de Regina. PEDAP a été développé en partenariat avec l'Institut national canadien pour les aveugles, INCA. Ashley Nemeth, conseillère en accessibilité à la ville de Regina, explique que le fait d'appuyer sur le bouton d'appel de feu pour piétons peut représenter un défi pour les personnes en situation de handicap, comme elle. Je dois avoir mon chien ou utiliser ma canne blanche pour essayer de trouver ce bouton, ce qui m'oblige à dévier de ma trajectoire, indique Ashley Nemeth. Ensuite, une fois que j'ai appuyé sur le bouton, je dois faire demi-tour, retrouver le trottoir et, avec un peu de chance, m'aligner dans la bonne direction pour traverser la rue tout droit, ce qui est toujours un défi. Ashley Nemeth affirme qu'elle s'attend à ce que PEDAP aide de nombreuses personnes qui ont de la difficulté à traverser une rue même lorsque la circulation est dense. La ville travaille sur 60 projets à long terme visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité de ses résidents. Mohamed Ali, responsable de la sensibilisation de l'INCA, a essayé l'application mobile avant qu'elle soit offerte au grand public. Il avoue qu'au début, il s'est beaucoup méfié de certaines fonctionnalités avant d'être rassuré. « J'étais un peu sceptique quant à son utilité », ajoute-t-il. Cependant, il a été surpris de voir à quel point l'application mobile crée un environnement plus sécuritaire et accessible. Je peux imaginer que l'application mobile sera très utile en hiver. Je suis donc très enthousiaste pour cette application mobile. Le responsable municipal de l'ingénierie de la circulation, Vikas Ravada, indique que Regina envisage d'étendre les zones où cette application pourra être utilisée dans la ville. C'était « Et si votre téléphone rendait les intersections plus sûres pour les personnes handicapées? » Un texte de Pierre-Olivier Nadeau, paru le 20 octobre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Forcée de déménager, la plus grosse clinique d'obstétrique de gynécologie de Québec devra fermer ses portes. Un texte de Jean-Philippe Guilbeault, paru le 29 octobre 2025 dans Le Journal de Montréal. La nouvelle loi 2 risque de multiplier des fermetures de la sorte, selon la directrice du Centre de la Cité. La hausse des loyers et le manque de financement du gouvernement ont raison de la plus grosse clinique d'obstétrique et de gynécologie de l'Est de la province, le Centre de la Cité à Québec, qui fermera ses portes à la fin mars, pouvant laisser jusqu'à 1 500 patientes sans médecin. Un scénario qui risque de se multiplier avec la nouvelle loi 2, prévient sa directrice, la docteure Vanessa Picard-Fortin. La clinique est située depuis une quinzaine d'années dans les galeries Charlebourg, où un projet de construction a précipité son déménagement. Or, les loyers ont doublé et la direction de la clinique ne peut se permettre de payer plus cher pour maintenir ses activités. Citation. Déjà au tarif actuel, on n'est pas rentable parce que ça fait plus de 15 ans que le gouvernement n'a pas augmenté les allocations pour les cliniques hors établissement. Fin de citation, explique la directrice de la clinique. Les spécialistes qui pratiquent à l'extérieur d'un hôpital bénéficient d'une majoration de 30 % pour les actes qu'ils posent par rapport à ceux effectués à l'intérieur d'un centre hospitalier. Citation. Ce 30 % ne suffisait déjà pas. Il suffit encore moins 15 ans plus tard avec le coût de la vie qui augmente. Fin de citation, dénonce la docteur Picard-Fortin. Restrictions budgétaires. Elle raconte que des négociations ont été menées pendant plus d'un an avec le CHU de Québec pour rapatrier les services offerts par la clinique à l'hôpital Saint-François d'Assise, sans succès. Citation. Il faut rappeler qu'on est dans un contexte de restrictions budgétaires, se défend le directeur médical du CHU, le docteur Julien Clément. C'était plusieurs personnes qu'il aurait fallu engager, entre parenthèses, pour maintenir le service. Fin de citation. Selon le docteur Clément, le meilleur scénario serait que des médecins de famille reprennent la totalité des patientes normalement suivies au centre de la cité. Ce sont de 20 à 25 % des suivis de grossesse pour la région de Québec qui étaient assurés à cette clinique, soit autour de 1 500 par année. Citation. On n'a pas encore eu d'écho que la première ligne ne soit pas capable d'absorber la nouvelle demande. Fin de citation, explique-t-il. Pression accrue. Si la pression financière est déjà très forte sur les médecins qui pratiquent en clinique, elle va s'accentuer avec les effets de la nouvelle loi 2, prévient Dr Picard-Fortin. Elle cite l'article 129 qui amputerait la rémunération des spécialistes pour les rendez-vous avec des patients lorsqu'ils sont référés par un omnipraticien. Citation. Je vois mal comment quiconque, toute spécialité confondue, pourrait continuer en clinique de la sorte, prévient-elle. Nos activités étaient déjà sous-financées, ellipse, mais là, avec ça, c'est sûr que la situation ne peut qu'être pire. Fin de citation. Le CHU de Québec confirme avoir lu avec étonnement cette disposition dans la loi, mais on attend des précisions quant aux intentions du ministère de la Santé. C'était « Forcé de déménager, la plus grosse clinique d'obstétrique et de gynécologie de Québec devra fermer ses portes ». Un texte de Jean-Philippe Guilbeault, paru le 29 octobre 2025 dans Le Journal de Montréal.